Bonjour à chacun. Dans notre mini-série sur le roi Salomon, qui se termine aujourd'hui, nous avons vu à ce stade comment Dieu a accompli sa promesse faite à David en faisant monter sur le trône d'Israël son fils Salomon. Nous avons vu également, comment Dieu s'est révélé à deux reprises à Salomon et comment il a répondu à sa prière en l'équipant en particulier d'une sagesse jusque-là inégalée, faisant de son règne un règne glorieux et un sujet d'émerveillement pour tous les royaumes alentours. Nous avons vu au travers du fameux jugement de Salomon sa grande sagesse à l'œuvre. Nous avons vu aussi que si la grande sagesse de Salomon explique beaucoup de choses concernant son règne, il y a surtout la bénédiction de Dieu sur le règne de Salomon, faisant de son royaume un royaume puissant, un royaume prospère, riche, grandiose, renommé et craint de tous. C'est ainsi, dans des versets que nous n'avons pas abordés au début du chapitre 10 du premier livre des rois, que la reine de Séba viendra de loin, vraisemblablement de l'actuel Yémen, pour voir la gloire de Salomon, dont la renommée était parvenue jusqu'à elle. Nous avons vu ensuite comment Salomon a entrepris la construction d'un temple à Jérusalem, réalisant ainsi le désir de son père, le roi David, qui avait œuvré pendant toute la fin de sa vie et de son règne pour préparer sa construction. Et nous avons vu enfin comment Dieu a agréé la construction du temple lors de sa dédicace en se manifestant par la nuée, nous avons vu au travers de sa prière que Salomon possédait une juste et grande compréhension de Dieu. Oui, nous pourrions dire à ce stade, comme Dieu l'avait promis à David, que Dieu a affermi sa postérité, qu'il a affermi le royaume de Salomon, son fils. Chers amis, avec tous ces éléments que je viens de rappeler, nous pouvons dire que Salomon avait véritablement toutes les cartes en main pour réussir sa vie, du point de vue humain et du point de vue de Dieu. Le happy end de sa vie et de son règne semblait écrit d'avance. Tant sa sagesse était grande et tant la bénédiction de Dieu reposait sur sa vie et sur son règne. Mais il y a un mais. Mais nous avons vu aussi que l'auteur du livre des rois a placé des indices tout au long du récit pour nous faire comprendre que tout n'était pas si idyllique que ça. Et pour nous préparer aussi certainement à la fin du récit, au choc de la fin du règne de Salomon. On peut rappeler ici l'alliance avec l'Égypte, scellée par le mariage avec la fille de Pharaon. Malgré les avertissements et les interdictions de Dieu au sujet des alliances avec d'autres nations et des mariages qui les scellaient. Rappelez également la mention au chapitre 3 de la construction du palais du roi ou des palais du roi avant celle du temple. Un anachronisme, une inexactitude historique qui n'est pas aux yeux de beaucoup due à une erreur de rédaction, mais au désir de l'auteur de nous indiquer que le cœur de Salomon était partagé et que ses priorités n'étaient pas bonnes dès le départ, dès le début de son règne. Pour enfoncer ce clou-là, on peut aussi rappeler que la construction des différents palais durera 13 ans, alors que la construction du temple n'en a duré que 7. Rappelez encore, toujours au chapitre 3, l'évocation des hauts lieux, où le peuple, et surtout Salomon, offrait des sacrifices à l'Éternel. Des hauts lieux que Dieu avait demandé de détruire. Et nous allons voir ce matin comment tout cela était bel et bien préparatoire et annonciateur du désastre final. Rappelez enfin l'évocation du grand nombre de chevaux de Salomon au chapitre 4, qui fait directement écho à un texte du Deutéronome l'interdisant, un texte que nous relirons un petit peu plus tard. Oui, Salomon avait toutes les cartes en main, mais son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Comme l'esquisse déjà pour nous tous ces indices laissés par l'auteur pour que le lecteur se prépare à la désillusion de la fin tragique de Salomon. Un cœur entier pour Dieu, un cœur fermement attaché à Dieu, un cœur obéissant à ce que Dieu dit, c'est là que se trouvait le véritable enjeu pour Salomon, pour sa vie, pour son règne. C'est la même chose pour chacun de nous d'ailleurs. Et Dieu l'a régulièrement dit et rappelé à Salomon tout au long de sa vie. Tout d'abord par la bouche de David, son père, avant que celui-ci ne meure. 1 Rois, chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant « Moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès. » Dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et puis Dieu rappelle l'essentiel de cela en réponse à la prière de Salomon au chapitre 3. « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. » Et enfin, Dieu le rappelle au chapitre 9, quand il apparaît pour la deuxième fois à Salomon. 1 Rois 9, à partir du verset 4. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture, pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David en disant, tu ne manqueras pas d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de fable et d'opprobre parmi tous les peuples. » Oui, clairement, Dieu attendait l'obéissance de la part de Salomon. Il attendait que Salomon marche devant lui comme David, son père, l'avait fait. Il attendait que Salomon l'aime de tout son cœur. Et ça, Salomon ne pouvait pas l'ignorer. Ça tombe bien parce que, justement, Salomon aimait Dieu. Nous l'avons vu dans cette série et c'est explicitement dit au chapitre 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais, on parlait de ces indices, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. Oui, Salomon aimait Dieu et il suivait les prescriptions de son père David. Oui, mais il y a un mais. Oui, mais avec les craquelures que nous venons de rappeler. Des craquelures, des fêlures qui vont s'agrandir au fil des années. Et progressivement, Salomon va ouvrir la porte de son cœur à d'autres choses. Progressivement, Salomon va suivre les désirs de son cœur plutôt que les instructions de Dieu. Et nous arrivons au chapitre 11 pour ce dernier volet donc, de notre série, où l'auteur du Livre des Rois fait le constat implacable et inimaginable de l'idolâtrie de Salomon. Je vous invite à la lecture des 13 premiers versets de ce chapitre 11, 1 Rois 11, versets 1 à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, et au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux, mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Chers amis, permettez-moi une courte parenthèse avant de revenir à l'idolâtrie ou avant d'en venir à l'idolâtrie de Salomon. Une parenthèse pour souligner que de tels passages dans la Bible milite à mes yeux très clairement, très fortement pour la véracité du texte biblique. Aucun auteur antique, aucun historien de la cour d'un roi ou d'un empereur, aucun chroniste chargé de rédiger l'histoire d'un règne ou d'un empire ne se serait permis d'écrire de telles choses sur le règne dont il devait parler. C'est impensable et ça n'existe pas, à ma connaissance, dans l'histoire antique. L'histoire était toujours écrite à la gloire du roi, à la gloire de l'empereur, en ne montrant que les bons côtés, que les victoires et que les réussites, et en omettant tout le reste. On peut le constater dans les textes antiques qui sont à notre disposition. Mais il n'en est pas ainsi de la Bible. La Bible ne nous jette pas de la poudre aux yeux pour nous éblouir ou pour essayer de nous vendre une histoire idyllique, mais fausse. Au contraire, la Bible nous dit les choses telles qu'elles sont véritablement, telles qu'elles se sont passées, parce que la parole de Dieu, la Bible, dit la vérité. Et elle nous dit ici que la fin de vie et la fin du règne de Salomon ont été l'apostasie, ont été l'adhésion à des cultes idolâtres. Et je referme la parenthèse. Les indices semés par l'auteur nous avaient préparé, si nous en avions tenu compte, au mieux à une fin contrastée, à une fin mitigée, qu'on comprend facilement avec la nature humaine. Mais là, ce que nous venons de lire est vraiment au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Quelle déchéance! Quelle fin tragique! Quel mystère profond! Que l'idolâtrie de Salomon alors qu'il possédait la sagesse de Dieu. Que dit notre texte au sujet de Salomon ? Il dit que les craquelures sont devenues des crevasses. Les fêlures sont devenues des gouffres. Il dit que Salomon, entraîné par l'amour, n'a pas gardé les commandements de Dieu, en particulier en s'alliant par mariage à toutes les nations environnantes, comme on peut le lire au début du chapitre 11. Alors bien sûr, ces intermariages étaient chose courante dans les relations internationales de l'époque, mais Dieu les avait formellement interdites, comme nous pourrions le lire dans Exode 34 ou dans Deutéronome chapitre 7. Pourquoi ces interdictions? Car le risque était que le cœur des Israélites, l'interdiction n'était pas que pour le roi, c'était pour tous les Israélites. Le risque était que le cœur des Israélites dans ces mariages ne soit détourné vers d'autres dieux, comme cela s'était d'ailleurs déjà passé pendant les 40 ans dans le désert. Quand le peuple s'était livré à la débauche avec les filles de Moab, Nombre chapitre 25, et qui s'était ensuite livré à l'idolâtrie avec les dieux de Moab. Il y a un précédent dans l'histoire d'Israël. Oui, le risque au travers de ces intermariages était l'idolâtrie. Que le cœur s'attache aux idoles de la personne que j'aime et se détourne de Dieu. Une chose est sûre, Dieu connaît bien la nature humaine. Il connaît bien les faiblesses et les tentations de notre nature pécheresse. Que dit le texte au sujet de Salomon ? Il dit au verset 1 et 3 que Salomon, entraîné par l'amour envers ses nombreuses femmes, nombreuses femmes, c'est un euphémisme, vous l'avez compris. Je ne sais pas comment il faudrait qualifier, mais voilà, en tout cas. Entraîné par l'amour envers ses nombreuses femmes, a détourné son cœur ou a laissé son cœur se détourner, être détourné de l'Éternel. Pourquoi faire ? Pour adorer d'autres dieux. Et tout le texte en parle, et le verset 10 souligne, malgré l'interdiction spécifique de Dieu à ce sujet-là. Ainsi, Salomon a adoré ce sont simplement ceux qui sont mentionnés dans le texte, Astarté, la déesse des Sidoniens, ainsi que Kémosh, le dieu des Moabites, Milcom ou Moloch, le dieu des Ammonites. Mais ce n'est pas tout, parce que le verset 8 nous fait comprendre qu'il a finalement fait tout ça pour toutes ses femmes et qu'il a adoré tous les dieux de toutes ses femmes. C'est ce que nous lisons effectivement au verset 8. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Non seulement Salomon a adoré ces dieux, ces idoles païennes, mais en plus il leur a construit des hauts lieux. C'est ce que nous lisons au chapitre 7 et au verset 7 et au verset 8. Et il est précisé pour Kémosh et pour Moloch que les hauts lieux furent construits sur la montagne en face de Jérusalem. Jérusalem où Salomon avait construit le temple à l'Éternel. Que dit notre texte au sujet de Salomon ? Il dit que Salomon a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au verset 6. Une expression qui va devenir une rengaine dans les livres des rois et dans les livres des chroniques pour parler de l'apostasie de tous les rois d'Israël et de la plupart des rois de Juda. Que dit notre texte au sujet de Salomon ? Il dit au verset 4 que le cœur de Salomon ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme l'avait été celui de son père David. Comme d'ailleurs le Seigneur le demandait dans sa loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et comme Salomon d'ailleurs, dans sa prière magnifique au chapitre 8, avait exhorté le peuple au moment de la dédicace, que votre cœur soit tout à l'Éternel, disait-il. 8, verset 61. Notons ici que David devient la référence. La référence pour évaluer le règne de Salomon, mais ensuite tous les règnes qui suivront. David qui, lui, avait pleinement suivi l'Éternel, lisons-nous au verset 6. À l'inverse de Salomon. Mais c'est comme si je pouvais lire dans vos pensées. Je pense que ça vous a certainement traversé l'esprit que David n'était pas sans faute. David n'était pas sans péché. Comment est-ce que cela peut-il être dit de lui que son cœur était tout entier attaché à l'Éternel, alors qu'il a commis des actes répréhensibles, alors qu'il a désobéi à Dieu? Comment se fait-il que David devienne la référence à l'aune de laquelle tous les rois qui vont se succéder vont être évalués? En fait, deux remarques, il y aurait beaucoup de choses à dire ici, mais deux remarques suffiront, je pense, pour dire que premièrement, David s'est toujours repenti de ses péchés. Le texte biblique le souligne. Et je ne veux pas durcir le trait, mais à aucun moment il n'est question de la repentance de Salomon dans tous les passages qui parlent de lui. Et puis surtout, David ne s'est jamais tourné vers des idoles. David, quelles que soient les fautes qu'il ait commises, n'a jamais abandonné l'Éternel. Il ne s'est jamais détourné du culte à l'Éternel pour se tourner vers d'autres dieux. Et son cœur, pécheur, cela va de soi, était entier à l'Éternel. Alors, ça veut certainement aussi dire d'autres choses dans lesquelles je n'entre pas maintenant. Que dit notre texte sur Salomon et sur Dieu à l'égard de Salomon ? Il dit au verset 9 que Dieu fut irrité contre Salomon à qui il était apparu deux fois. Et il dit au verset 11 que Dieu, sans doute, par l'intermédiaire d'un prophète, étrangement absent du règne de Salomon, si ce n'est ici et encore quelques versets plus loin, sans doute un prophète qui fait annoncer à Salomon la conséquence de ses fautes, son royaume sera déchiré, son royaume sera divisé. J'aimerais pour terminer souligner trois choses, faire trois remarques et des leçons qui vont avec. pour conclure, à partir de tout ce que nous venons de dire. Et j'aimerais tout d'abord m'arrêter sur la précision qui est donnée au verset 4, que cela s'est passé à l'époque de la vieillesse de Salomon. Que c'est à cette époque-là que les femmes de Salomon inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Si c'est à l'évidence, puisque le texte le dit vers la fin de sa vie, que les choix déterminants ont été faits par Salomon, pour ce qui est de l'idolâtrie, on peut dire sans se tromper que c'est en réalité tout au long de sa vie que cette déchéance s'est construite. L'apostasie de Salomon ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais progressivement, comme nous l'avons vu. Et rappeler craquelure après craquelure, fissure après fissure. J'aimerais revenir ici sur ce texte déjà mentionné du livre du Deutéronome, où Dieu dit ce que les futurs rois d'Israël devront faire et ne pas faire en particulier. Voilà ce que nous lisons. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, et que tu habiteras et que tu y habiteras et que tu diras « Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais... qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. C'est une évidence que Salomon connaissait ce texte. Et ce qui est frappant ici est de voir comment Salomon a eu faux sur toute la ligne. Comment Salomon s'est égaré sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Ici, Dieu dit à Israël que ses futurs rois ne devront pas avoir beaucoup de chevaux. Un signe de puissance. Mais surtout la tentation de se passer de Dieu et de se reposer sur sa propre puissance militaire. Et nous l'avons vu, Salomon possédait 4000 chevaux, ce qui était incroyable pour l'époque, et 12 000 cavaliers, et c'est en Égypte qu'il est allé les chercher. Ici, Dieu dit à Israël que ses futurs rois ne devront pas avoir un grand nombre de femmes. À cause du risque dont nous avons déjà parlé, que leur cœur ne s'éloigne de Dieu. Et nous l'avons lu, Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et elles ont détourné son cœur de l'Éternel. Ici, Dieu dit à Israël que ses futurs rois ne devront pas avoir une grande quantité d'argent et d'or, et nous lisons à divers endroits l'immense richesse de Salomon. Oui, Salomon s'est fourvoyé sur toute la ligne. Mais surtout, ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que toutes ces choses ne se sont pas mises en place juste au moment de sa vieillesse. Toutes ces choses se sont mises progressivement en place tout au long de sa vie, même si c'est à l'époque de sa vieillesse que les choses sont devenues visibles. Y a-t-il une leçon pour nous ici ? Certainement. Je la formulerai ainsi, c'est la leçon que la digue craque rarement quand un seul coup est frappé, mais qu'elle finit toujours par craquer quand les fissures des coups successifs, qui sont généralement au début invisibles à l'œil nu, s'accumulent puis s'élargissent avec le temps jusqu'au jour où la digue est emportée. Et c'est pourquoi avec le proverbe 4, verset 23, paradoxalement, peut-être un proverbe, un des 3000 proverbes écrits par Salomon, peut-être, nous comprenons l'importance de garder, l'importance de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, c'est la priorité pour nous si nous désirons vivre à la suite du Seigneur, si nous désirons suivre le Seigneur. Car c'est de notre cœur, dit le texte, que viennent les sources de la vie quand celui-ci est attaché à l'Éternel. Mais nous pourrions peut-être dire que c'est de notre cœur que viennent les sources de la mort quand notre cœur se détourne de l'Éternel. Attention donc à toutes ces petites choses qu'il nous arrive de tolérer dans notre vie, jour après jour, dans notre cœur, et qui finiront, si nous n'y prêtons pas attention, par faire craquer la digue un jour. Nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. La deuxième remarque ou leçon que j'aimerais faire ici concerne la sagesse de Salomon, et plus particulièrement les questions qui sont soulevées par la fin catastrophique de Salomon à la lumière de la sagesse qu'il avait. Comment comprendre la fin du règne de Salomon, de sa vie, à la lumière de cette sagesse reçue de Dieu ? Comment comprendre toutes les désobéissances de Salomon, alors même qu'il était rempli de la sagesse de Dieu ? Quand nous avions parlé de la sagesse de Salomon dans cette série, nous avions conclu que posséder la sagesse, ce n'est pas nécessairement agir avec sagesse. Posséder la sagesse, ce n'est pas automatiquement vivre avec sagesse. En fait, ce n'est pas parce que je sais que quelque chose est bon ou bien que je vais nécessairement faire ce qui est bien. Avec ou sans sagesse, il y a toujours des choix à faire. Et Salomon n'a malheureusement pas toujours fait les bons choix, il n'a pas toujours écouté Dieu, c'est une évidence, il n'a pas toujours choisi l'obéissance, il n'a pas toujours choisi d'aimer Dieu de tout son cœur, en choisissant de marcher dans ses voies. Et parfois, souvent, en fin de compte, il a suivi ses penchants, il a suivi ses désirs, il a suivi ses passions, il a suivi sa nature pécheresse. Et nous devons dire que quand il l'a fait en connaissance de cause, parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Alors oui, il y a une grande différence entre posséder la sagesse de Dieu et vivre sagement selon Dieu. Et je crois que c'est une des grandes leçons de la vie de Salomon. Et nous pouvons ici faire un parallèle que j'avais déjà fait avec le don de l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en eux, mais tous, à un moment donné, continuent de pécher ou pêchent encore. Comment cela est-il possible ? Cela est possible parce qu'avoir l'Esprit de Dieu dans ma vie ne me dispense pas de faire des choix d'obéissance. Ne me dispense pas de faire des choix que Dieu ne me forcera jamais à faire. Ne me dispense pas de faire des choix que l'Esprit Saint ne fera jamais à ma place. Pour le dire avec les mots de l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, je dois marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair ne vont pas disparaître comme par enchantement parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Rien n'est automatique. Je dois le vouloir, je dois le choisir, je dois choisir l'obéissance à Dieu plutôt que la satisfaction des désirs de ma nature pécheresse. Je dois choisir la sagesse des voies de Dieu plutôt que la folie des voies de mon cœur pécheur. C'est certainement une des grandes leçons de la vie et du règne de Salomon. Et la troisième et dernière chose que je voulais souligner pour conclure concerne la grâce et la fidélité de Dieu. Nous avons vu que Dieu va juger le royaume de Salomon, le royaume d'Israël, le royaume glorieux de Salomon en le divisant. Le schisme, il y aura le royaume du nord, le royaume du sud. Ça ne sera plus jamais la même chose. Et notons que là, et sans parler de l'idolâtrie qui, à partir de ce jour-là, sera monnaie courante dans tous les royaumes, dans les deux royaumes. Notons que la désobéissance de Salomon aurait dû entraîner la fin de la postérité de David. La désobéissance de Salomon aurait dû définitivement couper la lignée de David. Mais nous lisons au chapitre 12 et au verset 12 et au verset 13 qu'à cause de David, à cause de Jérusalem, Dieu ne jugera pas Salomon de son vivant et il n'arrachera pas tout le royaume. C'est-à-dire qu'il conservera une tribu à la postérité de Salomon, à la postérité de David. Et donc il conservera la royauté à David, à la lignée de David. Chers amis, ça, ce sont la grâce et la fidélité de Dieu. Ça, ce sont la grâce et la fidélité de Dieu qui maintient la promesse faite à David d'affermir pour toujours son trône. Et nous savons que la lignée de David est celle qui amènera jusqu'au Christ, jusqu'à Jésus, qui est effectivement sur le trône pour l'éternité. Si notre espérance reposait sur notre obéissance, nous serions les plus malheureux des hommes. Je vais le redire. Si notre espérance reposait sur notre obéissance, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais elle repose sur l'œuvre parfaite de Jésus, mort et ressuscité, pour nous offrir le salut et la vie éternelle. Notre espérance repose sur la fidélité de Dieu, à sa parole, à ses promesses. Notre espérance repose sur la grâce de Dieu, qui ne nous traite pas selon nos mérites. C'est aussi une des grandes leçons de la vie et du règne de Salomon, à la lumière de la suite de l'histoire du salut. Chers amis, si nous sommes en Christ par la foi, nous pouvons nous reposer dans la grâce et dans la fidélité de Dieu. Mais se reposer dans la grâce et dans la fidélité de Dieu, ça ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers. Il ne faudrait surtout pas comprendre ça. Parce que la vie de Salomon nous a rappelé qu'il nous appartient de faire quelque chose d'important, de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Amen.